Bienvenue aux Apatrides Anonymes, édition du 5 octobre 2023, en direct des studios de Choc.ca à l'UQAM, dans le pavillon, à Quin, Jasmin, on ne sait plus trop. On est à l'UQAM, donc merci d'être là avec nous pour une heure dix minutes de musique, oui, mais beaucoup de contenu sur les enjeux de racisme, frontières, immigration, sécurité nationale, droits humains. Donc, c'est Mathieu au micro avec vous pour vous accompagner dans cette prochaine plus qu'une heure. Donc, il va y avoir quoi à l'heure du jour? On va parler de la Grèce, de l'Union européenne, évidemment, de Lampedusa. On va parler aussi de sécurisation culturelle, le projet de loi à Québec, de mon oncle François à l'ONU. Bon, si vous ne devinez pas c'est lequel, on va vous le dire tantôt. Des travailleurs migrants ici, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. De Chypre, de Belgique. Il va y avoir un agenda, il va y avoir de la musique, entre autres Eliov, il va y avoir aussi Frankin de Witchfingers, il va y avoir Yocto. Dans quelques secondes, je vous parle des Arméniens, mais vous dire en premier lieu qu'on a eu une grosse semaine en enjeux autochtones, on va en parler un peu tantôt dans différents sujets, mais ça a été quand même, il y a une semaine, c'est la journée de commémoration de la mort de Joyce Echaquan, en lien donc avec la sécurisation culturelle entre autres. Il y a eu samedi la commémoration donc pour la journée de vérité et réconciliation, 30 septembre, un peu partout au Canada. Hier, c'était partout au Canada aussi, le 4 octobre, les marches pour les femmes disparues, assassinées, autochtones. Et il y a même eu un premier ministre autochtone qui a été élu il y a deux jours au Manitoba. Il s'appelle Wab Kenew. Donc, grosse semaine pour les enjeux autochtones. On en parle un petit peu plus tard à l'émission. Donc, vous dire que je suis donc à l'animation. Il y a un bruit de téléphone en arrière, mais c'est pas grave, on essaie de nous rejoindre, on est tellement populaire. Donc, Marie-Ève, bonjour.
Bonjour.
Simon, bonjour.
Excusez, c'était moi le son de téléphone.
Bravo, bravo. Écoute, donc, voilà, fait que si tout est prêt, on commence avec notre thème d'ouverture. On va parler du peuple arménien en premier lieu. On a vu quand même en direct, on a suivi en direct sur les réseaux sociaux, sur les médias, un exode massif de plus de 100 000 personnes en moins d'une semaine, en plein cœur du Caucase. C'est quand même assez extraordinaire. Le Haut-Karabakh, si vous connaissiez pas le nom, là, vous l'avez entendu parler. Je ne vais pas en parler en détail parce que les médias en ont beaucoup parlé, mais quelques faits quand même pour replacer tout le monde. Donc, la reprise de l'enclave par l'Azerbaïdjan au terme d'une offensive éclair a suscité bien des questions non seulement sur l'avenir du Haut-Karabakh, mais aussi sur celui de toute la région. Quelques 100 000 personnes, soit plus de 80% de la population officielle de l'enclave, ont déjà rejoint l'Arménie. Ils se sont sauvés, finalement. Le premier ministre de l'Arménie a accusé l'Azerbaïdjan d'y mener un nettoyage ethnique depuis quelques mois, mais particulièrement depuis quelques semaines. La capitale a déjà repris son nom azéri de Khankendi plutôt que Stepanakert, qui était le nom arménien. Les Azéris qui habitaient la région avant sa reprise par l'Arménie en 1990 vont certainement vouloir y retourner, reprendre leur vieux soulier, on pourrait dire. L'Azerbaïdjan ne veut pas d'un exode des Arméniens et n'encourage personne à quitter la région, a soutenu l'ambassadeur d'Azerbaïdjan en Grande-Bretagne. Monsieur Souleymanov a lancé un appel demandant aux Arméniens de souche de rester et de faire partie de la nouvelle société multi-ethnique de l'Azerbaïdjan. Pas beaucoup de monde qui les croit. Les peurs des réfugiés sont nourries par une série d'arrestations illégales dénoncées par les autorités arméniennes. Plusieurs responsables de l'enclave ont été mis en détention, accusés de terrorisme et d'autres crimes parce qu'il y avait des fonctionnaires et des politiques. L'Azerbaïdjan pourrait tenter de profiter de cette victoire pour poursuivre sa conquête dans le sud de l'Arménie. Cela pourrait vouloir dire ouvrir un corridor terrestre reliant l'Azerbaïdjan à son exclave de Nakhitchevan, en passant par l'Arménie, qui est près de la Turquie d'ailleurs. Les Arméniens redoutent que le corridor de Zanziyour ne soit qu'une première étape et que les Azéris aient des visées bien plus larges sur leur territoire qu'ils appellent déjà l'Azerbaïdjan du Sud. Donc, beaucoup d'enjeux peut-être à venir. Si le conflit survient maintenant, c'est parce que la Russie, alliée traditionnelle de l'Arménie, est occupée ailleurs avec une certaine guerre en Ukraine, entre autres. Ce retrait russe laisse toute la place à une autre puissance régionale, la Turquie, qui apporte un soutien militaire à l'Azerbaïdjan. On l'a vu dans la guerre en 2020, il y a trois ans. L'Iran, rival historique de la Turquie, suit de près la situation lui aussi. Une éventuelle annexion du Zanguezur couperait l'accès de l'Iran à l'Arménie et à l'Europe. Israël est également impliqué dans la mesure où il est le principal fournisseur d'armes de l'Azerbaïdjan, tiens donc, et abriterait plusieurs stations de renseignement électronique israéliennes, en plus d'une base du Mossad. Ça, je savais pas ça. L'Arménie a exhorté l'Union européenne à sanctionner l'Azerbaïdjan pour son opération militaire. De hauts fonctionnaires de l'UE, les dirigeants de nombreux pays membres, ont condamné les actions de l'Azerbaïdjan, mais n'ont pris pour le moment aucune mesure concrète. Absolument personne n'a rien fait. Il faut savoir que les exportations de gaz de l'Azerbaïdjan vers l'Union européenne ont considérablement augmenté depuis 2021. Bakou comble actuellement plus de 2% des besoins énergétiques européens. Donc, il y a un enjeu là aussi. Il y a une équipe de l'ONU qui a visité le Haut-Karabakh pour la première fois en 30 ans. Et ils sont revenus en disant qu'ils n'avaient vu aucune destruction, recueilli aucun témoignage concernant des violences contre les civils depuis le départ, puis depuis le cessez-le-feu. Je termine en disant que l'Union des communautés arméniennes du Québec a organisé dimanche un rassemblement au centre-ville de Montréal et il y a eu d'autres manifs ailleurs au Canada. Les Arméniens accusent Ottawa d'inaction, comme la plupart des pays occidentaux. Des milliers de personnes venues de France, de Belgique, des Pays-Bas et d'Allemagne se sont également rassemblées à Bruxelles dimanche dernier en Belgique. Plus de 10 000 manifestants ont notamment critiqué la réaction de l'Union européenne face à cette crise. Ils ont accusé Bruxelles de complicité avec le gouvernement de l'Azerbaïdjan. Donc, des enjeux géopolitiques quand même intéressants. Il y a des réfugiés aussi quand même. 100 000 personnes en une semaine, c'est quelque chose. Puis tout le monde regarde ça aller. Donc, voilà pour une petite mise à jour là-dessus, mais on va suivre ça dans les prochaines semaines. Marie-Ève, rebonsoir.
Rebonsoir.
Tu nous parles, on s'en va vers l'ouest un peu, vers la Belgique.
Oui, et je commence avec une bonne nouvelle parce que, disons qu'elles se font rares par les temps qui courent, alors quand elles passent, on les prend.
Oui, certainement.
L'État belge, figurez-vous, a subi un revers administratif à la mi-septembre dans ses efforts pour limiter l'arrivée de personnes migrantes sur son territoire. C'est que le Conseil d'État a suspendu la décision controversée du gouvernement de ne plus fournir d'hébergement aux hommes seuls qui demandent l'asile. Selon la plus haute juridiction administrative belge, la mesure est contraire à la législation en vigueur.
Ah oui?
Alors, il y a de plus en plus de pays qui font ça.
L'Angleterre l'a fait récemment,
ouais,
je pense.
Ouais, ben, oui, sur toutes sortes d'enjeux. Là, ouais. Mais le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Nicole Damore, justifiait cette mesure-là par le souci de donner la priorité aux familles
c'est sûr.
C'est que depuis 2 ans, et comme partout ailleurs, les centres d'hébergement belges sont pleins à craquer, pour ne pas dire saturés, et notamment en hiver, et de nombreuses personnes, dont des enfants, se retrouvent à dormir à la rue. Les autorités ont donc créé 5000 nouvelles places d'hébergement en un an et demi. Le réseau FEDASIL est donc passé d'environ 29 000 places à la fin 2021 à un peu plus de 34 000 aujourd'hui. Mais le compte y est toujours pas. Le taux d'occupation actuel est déjà de 95 %. Pourtant, le nombre de demandes d'asile est sensiblement le même qu'à la même période l'an dernier. D'après les chiffres du Commissariat général aux réfugiés et apatrides, pour les 7 premiers mois de l'année, c'est-à-dire jusqu'à la fin juillet, 18 300 personnes ont déposé une demande d'asile en Belgique contre environ 19 000 à la même période en 2022.
Okay.
Cette année-là, la Belgique avait enregistré un nombre record de demandeurs d'asile avec plus de 36 000 dossiers déposés. Le dernier record remontait à 2015 avec près de 43 000 demandes. Donc, okay. on est comme quand même clairement en baisse par rapport aux dernières années.
Ben oui.
Donc, c'est clair que, dans le fond, ce que la Belgique fait, c'est qu'il anticipe avec l'augmentation des arrivées en Italie. Le gouvernement belge pense que ça va entraîner une hausse du nombre d'arrivées de migrants en Belgique aussi.
Okay.
Cette mesure-là, en réalité, est pas tout à fait nouvelle parce que depuis 2 ans et le début de la crise de l'accueil en Belgique, les hommes seuls se font pas octroyer automatiquement de place d'hébergement après le dépôt de leur demande d'asile. Contrairement aux familles, ils sont pas considérés comme prioritaires de toute façon. Alors, ce qui arrive, c'est que les hommes isolés, sont inscrits sur une liste d'attente dans l'espoir que, éventuellement, il y a une place qui se libère. Actuellement, il y a environ 2000 hommes exilés qui attendent de pouvoir intégrer un centre.
OK. Ils attendent où? Est-ce que tu en parles?
Dans la rue.
Dans la rue, OK. C'est ça.
Pour les ONG de défense des droits des migrants, cette situation-là était pas non plus idéale, mais au moins les hommes avaient une perspective d'avoir un hébergement dans le réseau, tu sais. Alors que là, c'est comme si, dans le fond, une pratique qui était illégale et qui prévalait depuis 2 ans, devenait normalisée, tu sais. Fait que ça change pas grand-chose à la situation, ça fait juste la normaliser encore plus. Les ONG dénoncent une instrumentalisation des familles et font aussi valoir que la loi offre des solutions pour mieux accueillir les exilés, notamment l'activation d'un plan de répartition obligatoire dans toutes les communes belges. Mais jusqu'à maintenant, le gouvernement a toujours refusé de l'activer, de l'utiliser. Je termine en rappelant que c'est pas la première fois que l'État belge est épinglé par la justice pour ses manquements vis-à-vis de l'accueil des demandeurs d'asile. En juin dernier, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné Bruxelles après la plainte d'un demandeur d'asile guinéen. Celui-ci avait pas pu obtenir de place d'hébergement auprès des autorités et donc avait été contraint de dormir dehors pendant plus de 4 mois. Donc, ça répond à ta question,
exact.
Mathieu.
Merci beaucoup, Marie. T'as bouclé la boucle. La Belgique, on aurait parlé de plein d'autres sujets, puis on aura l'occasion de faire d'autres micros là-dessus dans les prochains mois, parce qu'en Belgique, il se passe beaucoup de choses.
Oui,
quand
oui, quand même.
Si on n'en parle pas souvent, là,
ouais.
À côté de la France, l'Angleterre et puis de l'Allemagne.
Donc, non, c'est
l'Italie et puis la Grèce.
Ouais,
merci, Marie-Ève.
De rien, ça m'est toujours un plaisir.
Parfait. Moi, avant qu'on passe en musique dans quelques minutes, j'ai un autre micro à vous faire sur un autre pays. On va vers le sud-est, on va dans la Méditerranée, vraiment dans la Méditerranée, pas à Lampedusa. Marie-Ève va vous en parler plus tard à l'émission.
Oui, là, vous vole-moi pas mes punchs.
Non, c'est Chypre, une autre île dans la Méditerranée. Ça brasse pas mal.
Ça va très bien, là aussi. Hein?
Ah oui, écoute, début septembre, durant plusieurs jours, des attaques racistes alimentées par l'extrême droite ont visé des étrangers dans plusieurs villes de l'île. Pourtant, Nicosie redouble d'efforts pour expulser les étrangers en situation irrégulière et durcit ses conditions de protection internationale. Par exemple, le 2 septembre, dans la ville de Limassol, environ 200 Chypriotes vêtus de noir ont défilé dans les rues pour crier leur haine des étrangers. Chypre et Grec ont-ils scandé avant de s'en prendre physiquement à des personnes ayant la mauvaise couleur de peau, entre guillemets. Une femme vietnamienne a vu son commerce pillé et brûlé par les émeutiers. Un Syrien assis sur la plage a été roué de coups.
Aye.
Et c'est vraiment des émeutes, là, des commerces brûlés, des autos brûlées, des attaques sur des gens. Pas de présence policière vraiment visible. Nous voulons récupérer nos quartiers, nos villages, nos villes qui ont été ghettoisés, a déclaré le parti d'extrême droite Elam dans un communiqué. Bon, finalement, plus de 20 personnes ont été arrêtées à la suite de ces émeutes, parmi lesquelles 8 chypriotes grecs, un ressortissant grec, mais 12 syriens, évidemment, suite à plusieurs émeutes.
Ah oui, OK.
Des arrestations. Comment expliquer un tel déchaînement de violence alors que le nombre de demandeurs d'asile à Chypre a chuté de 53% au cours des 5 derniers mois? Peut-être des chiffres de la police qui montrent une augmentation des arrivées de migrants par la mer qui aurait pu provoquer ça. Plus de 500 exilés ont filé le sol chypriote au cours des 3 derniers mois, ce qui n'est pas énorme non plus.
Non.
La grande majorité d'entre eux étaient originaires de Syrie, mais venaient aussi du Liban. En cause aussi, le gouvernement, en particulier au cours des années 2016 à 2022, n'a pas réussi à gérer la situation, ce qui a entraîné des retards importants dans le traitement des demandes d'asile, donc des gens qui se retrouvent à la rue dans les centres, comme tu racontais en Belgique. Récemment, les tensions sur l'île se sont aussi cristallisées autour de l'évacuation d'un complexe immobilier sans électricité ni eau courante de la ville côtière de Cloracas, où résidaient presque 1000 migrants syriens.
Aïe.
Depuis 2020, les occupants de ce squat devaient être expulsés pour des raisons sanitaires et de sécurité. De nombreuses manifestations ont été organisées par les habitants, exacerbées par les partis d'extrême droite, pour exiger que ces appartements soient évacués, tandis que les exilés manifestaient en même temps pour être hébergés dignement.
Ben oui.
Le démantèlement a finalement eu lieu le 22 août 2023 sous grande tension. Ça a provoqué un peu aussi de remous. Nicosie réclame depuis des années plus de fonds et de soutien politique de la part de Bruxelles. Proportionnellement à son nombre d'habitants, Chypre est le pays de l'UE qui accueille le plus de demandeurs d'asile. Près de 5% des 915 000 habitants du pays sont des demandeurs d'asile, selon les derniers chiffres. Depuis plusieurs mois, les autorités chypriotes ont multiplié leurs efforts pour expulser les migrants en situation régulière vers d'autres pays ou les inciter à partir via des programmes de retour volontaire. Quelques 4 300 migrants ont déjà été renvoyés en 2023. En 2022, l'île avait expulsé 70 % des migrants entrés dans le pays, soit 7 000 personnes. Un nombre record facilité par des accords avec les pays d'origine comme l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan et le Vietnam. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu récemment au Liban et a annoncé une coopération étroite en matière de prévention des flux irréguliers. Sont notamment prévues des formations de patrouilles conjointes pour empêcher les arrivées de bateaux et surtout un accord qui permet à Chypre de renvoyer les migrants automatiquement vers le Liban, qu'il considère comme un pays tiers sûr.
Non, c'est ça.
Et pour tenter de dissuader les candidats à l'exil de rejoindre le pays, les autorités chypriotes ont récemment lancé une campagne d'information sur les réseaux sociaux intitulée « Let's talk truth about Cyprus ». Parmi les informations mises de l'avant, le taux de rejet des demandes d'asile qui avoisine 96 % et l'interdiction d'entrer sur le territoire européen pour 5 ans en cas de rejet d'une demande d'asile à Chypre. taillé, hein? En outre, le gouvernement a annoncé une nouvelle mesure. Les demandeurs d'asile arrivés à partir de janvier dernier 2023 à Chypre seront exclus du programme de réinstallation dans un autre État membre de l'Union européenne. Bon, tout ça est sûrement pas légal, là, mais c'est des mesures qui ont été annoncées récemment.
OK. Toutefois, des mesures prises par l'État chypriote.
Oui, puis qui disent dans leur publicité qu'ils envoient aux migrants sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Toutefois, l'île a besoin de la présence de migrants. L'économie chypriote s'effondrerait sans les travailleurs migrants, a rappelé le ministre du Travail de Chypre, pour tenter de calmer les tensions. Les étrangers représentent près d'un quart de la main-d'œuvre au pays. Étrangers, c'est-à-dire y compris les demandeurs d'asile. Refusant de laisser le champ libre à ses milices d'extrême droite, la société civile chypriote a organisé le 10 septembre un rassemblement de soutien aux réfugiés. Des milliers de personnes ont participé à cette marche dans le centre de Nicosie avec les slogans « Ne touchez pas aux migrants » ou « Tous ensemble, nous anéantirons les néo-nazis », ont scandé les manifestants. Dernière information sur Chypre. Seul et unique centre de réception des migrants à Chypre, pour Nara, est désormais entièrement clôturé par une autre barrière grillagée. Les demandeurs d'asile ont donc interdiction d'en sortir le temps de l'enregistrement et du traitement de leur dossier. La structure de Pournara, d'une capacité de 1000 places, est opérationnelle depuis 2019. Elle est située à une quinzaine de kilomètres de la capitale Nicosie, où sont hébergés tous les exilés arrivés, que ce soit les Syriens débarqués de bateaux ou les Africains subsahariens arrivés via le nord de l'île administré par la Turquie, comme on sait. L'installation de la clôture autour du centre n'est qu'un des volets du programme global de rénovation des bâtiments. Pour ces rénovations, les autorités de l'île ont reçu 22 millions d'euros de la Commission européenne, quand même. À terme, le centre serait doté de 1240 places grâce à l'installation d'unités préfabriquées. Je cite Gianluca Rocco, chef de la mission de l'OIM en Grèce. Chypre disposera d'un système d'accueil contemporain doté d'installations fonctionnelles. Et la Commission européenne a déclaré ses projets phares en Méditerranée orientale assurent un accueil sûr et digne dans un système de gestion des migrations durable et évolutif. En terminant, le centre d'accueil est régulièrement sous le feu des critiques. Si officiellement la durée de séjour à l'intérieur s'étend de 30 à 40 jours, dans les faits, les migrants y restent 3 mois en moyenne, voire plus, indique un récent rapport. Des mois de patience qui occasionnent de la surpopulation au sein du centre. En novembre 2022, environ 2000 personnes s'y concentraient, dont 300 mineurs non accompagnés. Mm. C'est 1000 places actuellement. Une détérioration des conditions de vie et donc des tensions qui arrivent finalement entre les migrants et après ça avec les gens autour qui habitent dans la région. Donc à Chypre, beaucoup de stock, beaucoup d'informations. On suit ça puis on vous en reparle dans les prochaines émissions. On y va en musique, Marie-Ève?
Ben oui.
On y va avec.
C'est toi le boss?
C'est moi le boss. Première pièce, Yocto, la pièce orbitale Alcatraz. de retour après cette pièce de Yocto, la pièce orbitale Alcatraz. C'est un quintet de Montréal qui fait une genre de post-new wave électro. Premier album, Zepta Supernova, sorti en août dernier, il y a 2 mois, 2023. 9e position du palmarès local, leur album à choc.ca. Et ils seront en concert le 3 novembre à l'Escogriffe à Montréal dans le cadre de Coup de cœur francophone. Donc, vous avez aimé ça. Allez en profiter. Donc, Simon, je te passe la parole pour parler des travailleurs migrants ici au Québec.
Bien, je vous parle de plusieurs enjeux qui gravitent autour du travail saisonnier ou temporaire, dans le domaine agricole surtout. Des revendications qui ont été exprimées récemment et une action collective qui est en train de se mettre en place.
Ben oui.
Je vous parle aussi d'un crosseur allégué, disons ça comme ça, et je commence avec une nouvelle un peu surprenante à propos de la frontière qui a fuité des services de renseignement canadiens. C'est un petit peu étrange.
Oui, je sais, vas-y, ouais.
T'as peut-être vu passer les articles. Ouais. Donc, il s'agit d'une note de service qui était destinée à l'ancien ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, avant qu'il soit remplacé par Dominique Leblanc. Mm-hmm. C'était un document de travail en vue d'une rencontre bilatérale avec son homologue des États-Unis, note dans laquelle on apprend que les organisations de passeurs qui sont actifs à la frontière Canada-États-Unis sont de plus en plus les mêmes que celles qui opèrent à la frontière États-Unis-Mexique et même ailleurs en Amérique latine et même dans le monde. Donc, des groupes souvent liés au cartel de la drogue, au crime organisé, souvent impliqués aussi dans la traite humaine et l'exploitation en tout genre, dont sexuelle. Ce phénomène de réorganisation des réseaux est plutôt récent et un des facteurs principaux qui a accéléré sa mise en place, c'est la fermeture du chemin Roxham,
bien sûr,
qui permettait, somme toute, de se présenter à la frontière, la traverser clandestinement, oui, mais avec prise en charge immédiate par les autorités frontalières. D'ailleurs, la note de service destinée au ministre mentionnait clairement le risque de voir le crime organisé s'emparer du commerce de passage, du passage clandestin advenant à la fermeture du chemin Roxham. Mais on le sait, les pressions des politiciens, chroniqueurs, conservateurs au Québec étaient trop fortes. Le fédéral a cédé et a même, je pense, terminé de démanteler ses installations du chemin Roxham.
C'est en train de se faire, oui.
C'est en train de se faire. Peut-être qu'il reste encore quelques carcasses, là, mais en tout cas, malgré les avertissements, il a fermé, entre guillemets, le chemin Roxham et s'est produit ce qui était prévu qu'il se produise, donc le crime organisé s'est infiltré.
Ah oui.
En quoi exactement la fermeture du chemin Roxham a pu permettre justement au crime organisé de s'emparer de ce commerce-là? Donc, deux choses principalement. Donc, avant la fermeture, on avait des services de navette ou de taxi qui amenaient les migrants à la frontière à partir de l'aéroport de Burlington ou du terminus d'autobus de Plattsburgh, par exemple. Mm-hmm. Rien de criminel là-dedans. Par contre, là, il faut carrément traverser la frontière, souvent de nuit, dans des secteurs isolés. Ça implique des risques. Et les gens préfèrent s'en remettre aux services de soi-disant professionnels qui auraient des complices qui les prendraient en charge de l'autre côté, qui connaîtraient le territoire, qui savent par où passer, qui ont accès à du ravitaillement, même à de l'hébergement, à des cachettes, des choses comme ça. Deuxièmement, ce n'est plus aussi facile qu'avant de faire une demande d'asile si on est entré clandestinement au Canada. Donc ça, c'est intéressant aussi pour le crime organisé d'avoir à sa disposition un bassin de personnes sans papier à exploiter dans les semaines et les mois qui suivent le passage de la frontière. Quand les autorités frontalières intervenaient dès l'entrée au Canada, ça coupait l'herbe sous le pied des réseaux criminels.
Oui, ils étaient officialisés, leur passage. Là.
C'est
ouais.
ça, avec ouais. des hébergements temporaires plus officiels.
Certains papiers quand même.
C'était peut-être plus intimidant pour des recruteurs d'essayer d'aller lorgner de ce côté-là. Mm-hmm. Sinon, il y a des gens bien de chez nous qui profitent de ces populations vulnérables. Il y a un producteur agricole de la Montérégie qui s'appelle Jean Lemay. On associe souvent ces pratiques douteuses à de la traite humaine. On lui attribue la mort d'un demandeur d'asile mexicain, José Guadalupe Briano Esparza. Je vais revenir au bilan très, très lourd de Jean Lemay dans une minute, mais avant, je vais vous parler du contexte dans lequel M. Briano Esparza est mort. C'est assez parlant en soi. Ça s'est passé en juillet dernier. Il avait 20 ans. Il avait laissé au Mexique sa femme et leurs deux très jeunes filles à qui il envoyait de l'argent. Il était dans une voiture en déplacement entre deux exploitations agricoles très tôt le matin, après des nuits probablement trop courtes. Le chauffeur, qui lui s'en est tiré indemne, était un travailleur temporaire sans permis de conduire. Ce qui fait en sorte que, ben, peut-être probablement par peur d'être mis à l'amende ou même expulsé, je sais pas, malgré la gravité de l'état de son passager, il n'a pas appelé les secours. Il a plutôt appelé son boss, Jean Lemay, qui lui, même chose, n'a pas appelé le 911, mais a plutôt appelé une remorqueuse pour ramasser la carcasse de la voiture. Donc, en gros, ce qu'il voulait, c'est surtout nettoyer la scène de l'accident pour enlever toutes formes de preuves. Ce serait finalement un passant qui va appeler les secours, mais beaucoup plus tard, trop tard en fait pour M. Briano Esparza. Donc pourquoi cet accident sur un petit chemin de campagne à Sainte-Hélène-de-Bagotte? Je vous parlais d'allégations de trait de la personne envers M. Lemay, qui malgré un dossier constellé d'amendes, de perquisitions et même de bannissement à vie du programme provincial de travailleurs temporaires, Il continuait d'opérer par la bande avec l'aide de recruteurs qui lorgnaient du côté des hébergements temporaires de travailleurs saisonniers et qui profitent de certaines ratées du système pour louer ou vendre, sans la paperasserie habituelle, les services de ces victimes à d'autres entreprises agricoles de la région, tout en empochant une généreuse cote. Donc, on estime ses profits à jusqu'à 40 000 $ par semaine, juste sur le commerce d'employés clandestins.
Mm-hmm.
On pense que M. Briano Esparza était loué à un client de M. Lemay, une autre ferme de la Montérégie, on ne sait pas laquelle, vers laquelle il était en route au moment de l'accident, dans le cadre de ce commerce de la personne.
Mm.
Jean Lemay fait actuellement l'objet d'enquêtes criminelles, mais à ce jour, il n'y a aucune accusation de traite humaine, ce que déplorent plusieurs associations, dont le Réseau des travailleurs et travailleuses migrants agricoles du Québec, le RATMAC.
Mm-hmm.
Plus globalement, sur la question du travail temporaire ou saisonnier, que ce soit le travail agricole, les agences dans toutes sortes de milieux, dont hospitaliers, les travailleuses domestiques, il y a 21 organisations communautaires et syndicales qui... un peu dans le cadre des audiences publiques sur l'immigration Québec 2024-2027 qui viennent de se terminer. Bref, ce collectif réclame des politiques axées sur l'immigration permanente et respectueuse des droits humains. D'ailleurs, il faudra bientôt, dans une prochaine émission, vous revenir sur ces audiences publiques, voir concrètement ce que ça a donné. Il semble qu'on penche vers une augmentation des quotas pour...
Ben, on a parlé il y a deux semaines de ce qui s'était passé, mais les résultats, on les aura au mois de novembre.
C'est ça, il y aura un post-mortem avec des conclusions plus complètes. Bref, les revendications principales de ce collectif, c'est la mise en place d'un programme de régularisation des personnes sans papier, promesse toujours non tenue de la part du fédéral, par contre. Et aussi, on demande d'appliquer intégralement les principes de la Charte des droits et libertés à tout le monde, peu importe le statut. Plus en détail, on exige que les politiques soient orientées vers l'accès à la résidence permanente pour éviter des situations de non-droit et qui mettent en danger la santé et la sécurité des personnes. On demande plusieurs choses qui tombent sous le sens et qui sont revendiquées depuis des années, par exemple que les quotas de réfugiés et de la réunification familiale soient augmentés, que les délais entre la sélection et la résidence permanente soient réduits. C'est d'ailleurs beaucoup plus long au Québec que dans le reste du Canada pour obtenir sa résidence.
Mm-hmm. Ah oui,
on demande que tout... Oui, on en parle souvent, mais ça ne change pas. On demande que... On ne nous écoute pas, ça a l'air.
Ben non.
On demande que toutes sortes de situations administratives absurdes soient corrigées. Par exemple, je parlais de délais trop longs qui parfois font en sorte que des prolongations de permis ne sont pas accordées avant l'échéance du permis,
ouais.
Ce qui lance les gens est-ce qu'il est dans la clandestinité, finalement. On s'interroge sur la pertinence des permis de travail fermés qui sont exclusifs à un employeur unique. Ça aussi, on en parle souvent, ce qui ouvre la porte à tous les abus possibles. Et on demande sur cette question précise une approche différenciée entre les hommes et les femmes qui, elles, en plus de l'exploitation liée au travail, sont beaucoup plus à risque que les hommes de subir toutes sortes d'agressions sexuelles, tout en ayant peur de dénoncer.
Ben oui, ben oui.
Sur ce point très précis des permis de travail fermés, il y a l'Association pour les droits des travailleurs de maison et de ferme, ou DTMF, qui va encore plus loin et qui a déposé à la Cour supérieure du Québec, il y a environ un mois, une demande d'action collective pour justement s'opposer aux permis de travail fermés, que ce type de permis de travail soit reconnu comme inconstitutionnel et qu'on prévoie des indemnisations pour les travailleurs et travailleuses qui ont subi des préjudices sous la contrainte d'un tel type de permis de travail fermé. Il y a même un rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage, un monsieur Tomoya Obokata, qui avait affirmé quelques jours avant, à la suite d'une visite de deux semaines au Canada, que le système de permis de travail fermé est une forme d'esclavage moderne. Affirmation qui milite en faveur de cette action collective dont on va suivre les développements pour vous. On vous dira d'abord si elle a été autorisée et sous quelles conditions, ce qui peut quand même prendre un certain temps.
Ben oui.
Et je termine rapidement. Autre demande d'action collective que j'ai vu passer cette semaine, c'est le CTI, le Centre des travailleurs, travailleuses, immigrants et immigrantes, qui demande l'autorisation d'une action collective contre la société de placement Trésor et New Rest, qui est une compagnie de restauration pour compagnies aériennes, pour des histoires de fausses promesses de manipulation et d'exploitation de travailleurs migrants. Donc, dossier qu'on va...
Oui, c'est arrivé, ça a été déposé, je pense, avant hier, conférence de presse hier. Donc, c'est tout récent, fait qu'on en parlera dans les prochaines semaines, sans problème.
Exactement.
Et pour voir le gros épais à Jean Lemay, on regarde la facture.
Enquête ou la facture?
La facture.
La facture, parfait.
Une émission complète sur, sur lui et l'exploitation des travailleurs migrants en Montérégie.
Sa grosse face de crosseur.
Exactement. Donc, quelques notes et ensuite, Marie-Ève nous revient pour nous parler de sécurisation culturelle. toujours aux apatrides. Je vous parle de mon oncle François, avant de passer la parole à Marie-Ève. Il était à l'ONU il y a 2 semaines, puis il était bien fier de ça. Mais Ghislain Picard, le chef de l'APNQL, a envoyé une lettre à Antonio Guterres, secrétaire général, pour lui rappeler que le Québec refuse de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Le Québec était la seule province invitée à l'Assemblée générale des Nations Unies et au sommet sur l'ambition climatique. Je cite M. Picard, il faudrait leur rappeler qu'il y a un cancer au Canada. Le Québec et 5 autres provinces ont activement fait un travail de lobby pour s'opposer au projet de loi C-15 qui a finalement été adopté en 2021 à Ottawa sur la déclaration. Dans sa lettre adressée le 19 septembre à M. Guterres, M. Picard illustre aussi que le Québec tente de mettre des bâtons dans les roues des communautés, dans les roues des communautés autochtones qui souhaitent obtenir plus d'autonomie en citant l'exemple de la loi C-92 sur les services de protection de l'enfance. Cette loi est contestée jusqu'en Cour suprême actuellement par le gouvernement du Québec. On en a souvent parlé. Il soutient qu'on a souvent une image très positive de la province et du pays en général à l'extérieur des frontières, ce qui, dans les faits, omet plusieurs réalités. Il y a aussi des groupes environnementaux qui ont trouvé ça un peu particulier en disant que le Québec pourra en faire plus en matière de changement, de lutte au changement climatique et ont été surpris que le premier ministre québécois ait été invité à s'exprimer dans le cadre du fameux sommet sur l'ambition climatique, donc à l'ONU. François Legault et le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, ont aussi présenté les grandes orientations du Québec en matière d'environnement en participant à une table ronde avec les membres du Beyond Oil and Gas Alliance, le BOGA. Le sommet sur l'ambition climatique a mis à l'honneur le sommet sur l'ambition climatique et cette table ronde de BOGA, pardon, a mis à l'honneur les dirigeants d'État, de la société civile et des entreprises qui sont les chefs de file dans la mise en place de mesures crédibles et concrètes visant à atteindre l'objectif de 1,5 degrés Celsius de l'accord de Paris et à apporter la justice climatique aux personnes touchées de plein fouet par la crise climatique, selon l'ONU. Donc, le Québec fait partie supposément de ces gens-là. Et ce qui devait arriver arriva. Sous le regard enchanté de François Legault, Al Gore a rangé le premier ministre du Québec parmi les héros de la lutte contre le réchauffement climatique. Emporté par sa passion bien connue pour ce combat, l'ancien vice-président américain a prononcé le mot lieu en genre au début d'une réunion de la coalition BOGA tenue dans les bureaux de la délégation générale du Québec à New York. Et là, je cite l'article de la presse. « Le narrateur d'une vérité qui dérange évoquait sur un ton prophétique et avec les accents d'un pasteur du Tennessee les effets de l'atteinte de la neutralité carbone sur les êtres humains.
» C'est beau, c'est beau.
Mais évidemment, Legault ne peut pas partir de New York sans faire un deal, sans officialiser une transaction. Donc, il s'est rendu à Astoria pour participer à l'inauguration de la construction de la station de la ligne de transmission Champlain-Hudson Power Express d'Hydro-Québec. François Legault a estimé à 30 milliards de dollars les retombées de cette ligne bidirectionnelle entre New York et le Québec. Donc, voilà le petit voyage de François, où il a été honoré, mais aussi critiqué, Marie-Ève.
Un petit bonhomme vert.
Un petit bonhomme bleu et vert. Donc, tu nous parles de... c'est assez sérieux.
Oui, c'est sûr que c'est assez sérieux, mais en même temps, il y a un côté ridicule à tout ça.
Loufoque, hein? Ouais.
Parce qu'il n'y a pas que Legault qui a l'air fou ces temps-ci. Yann Lafrenière, le très compétent ministre des Affaires autochtones aussi, son projet de loi 32 sur la sécurisation culturelle, c'est le moins qu'on puisse dire du plomb dans l'aile. C'est que la commission des institutions de l'Assemblée nationale a tenu à la mi-septembre les consultations particulières sur le projet de loi instaurant l'approche de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux.
Oh.
Un texte très étoffé de 4 pages déposé dans la hâte à la toute fin de la dernière session parlementaire.
Oui.
Dès le premier jour des consultations, les représentants des Premières Nations ont reproché au gouvernement de leur imposer une nouvelle loi et de les mettre devant le fait accompli plutôt que de travailler en collaboration. Faut dire que Yann Lafrenière avait choisi d'entendre d'abord le Collège des médecins du Québec, l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse avant tout groupe autochtone.
Ben oui.
Résultat, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Québec-Labrador, Ghislain Picard, a annoncé qu'il ne participerait pas parce qu'il juge que le processus méprise, méprise l'autonomie gouvernementale des Premières Nations. Comme je le disais, le Collège des médecins, qui n'est pas le plus progressiste au monde, là, était parmi les premiers intervenants, mais quand même, on a eu droit à un face-à-face tendu entre son président, le docteur Maurice Gaudreau et Yann Lafrenière.
Il pensait que ça serait facile, mais...
Yann Lafrenière? Une couple de uppercut. le docteur Gaudreau a fait valoir que sans la reconnaissance de l'existence de la discrimination systémique au Québec et l'adoption du principe de Joyce, ben la méfiance des communautés va demeurer et le gouvernement va juste comme perpétuer son, et je cite, approche paternaliste et colonialiste.
Bon, rien de moins.
Ce à quoi Yann Lafrenière a répondu qu'il reconnaissait qu'il y a du racisme, mais seulement chez les individus, c'est-à-dire des médecins et du personnel soignant qui sont racistes et qui donnent de mauvais services.
Des pas fins.
Ouais, Yann Lafrenière a même affirmé qu'il croyait même pas en la nécessité de son propre projet de loi, mais qu'il se devait d'envoyer un message clair. Bref, il s'est contenté de renvoyer la responsabilité au personnel soignant.
Ben oui.
Dans son mémoire, le Collège des médecins juge aussi que le projet de loi 32 continue d'ignorer la pensée autochtone, d'abord parce que il a pas été coécrit avec eux. Je cite le mémoire, d'avoir consulté des représentants autochtones, et là c'est moi qui précise qu'il y en a eu 13 qui ont été consultés.
Ouais, 13, OK.
En amont de la rédaction ne constitue pas en soi un acte de co-création. Ce n'est pas vrai qu'on sait ce qui est bon pour eux. Avec eux, on peut définir ce qui va être bon pour eux dans le futur. Le collège croit que le projet de loi devrait aller plus loin, par exemple, en visant pas exclusivement les soins offerts par les hôpitaux, mais aussi par les cliniques, les résidences privées pour aînés et les CHSLD. Il y a même le député libéral André Morin qui a dit que l'adhésion au principe de Joyce constituait un minimum. Mmh. Et vers la fin des auditions, le juge à la retraite Jacques Vien, qui présidé la dite commission, a lui aussi déclaré qu'il est impossible de nier la discrimination systémique dont sont victimes les Premières Nations et les Inuits, et a suggéré au gouvernement Legault que si le terme raciste lui donne des ulcères d'estomac, ben il pourrait aussi utiliser discrimination, puis ça ferait l'affaire. Tu sais.
Ouais, ouais, je sais pas si c'était ironique, mais
en tout cas... Ensuite, bon, on continue. Ça, c'était juste le premier jour. Là.
Hey, je te dis, on n'a pas fini.
Le deuxième jour, les proches de Joyce et Chacoan ont même claqué la porte des consultations parce qu'ils se sont sentis instrumentalisés par Yann Lafrenière. Je cite Jennifer Petitcouet-Dufresne, qui est directrice générale du bureau du principe de Joyce et qui était aussi cousine de Madame Chacoan. Nous, on a eu un profond malaise de voir le ministre Lafrenière nommer à outrance le nom de Joyce en objectifiant sa cause pour ses besoins et son dessein politique. C'est clair.
Tout en refusant de reconnaître le principe de Joyce.
Bref, aucun des intervenants entendus lors des consultations n'a accueilli avec enthousiasme le projet de loi et tout le monde réclame du gouvernement à peu près la même chose, qui scrappe son projet de marde, qui en rédige un autre, cette fois coécrit par des membres des communautés autochtones. Parce que, comme le dit Jennifer Petitcouet-Dufresne, la sécurisation culturelle, je la cite, ce n'est pas juste prendre en compte les spécificités historiques et culturelles des Autochtones. Il ne suffit pas de mettre des plumes dans un hôpital. C'est construire, innover, rendre plus informelles les modalités de consultation. Et pour paraphraser le docteur Stanley Volant, ce qui est en jeu là-dedans, c'est la relation de confiance entre un patient et son médecin, entre autres.
Entre autres, oui.
La sécurisation culturelle, ça veut aussi dire de respecter les savoirs et la médecine traditionnelle, accueillir les Autochtones dans leurs idées qui se font de la médecine plutôt que de les infantiliser. Et bien, que fait Yann Lafrenière depuis? Ben, il maintient ses positions et continue d'aller de l'avant et répond que le gouvernement avait déjà tenté l'approche du dialogue et des consultations avec les Premières Nations et que, selon lui, au bout de 2 ans, il n'y avait toujours pas de résultat. Je le cite, « On a pris une autre approche, on a dit « priorisons, avançons, même si c'est imparfait, avançons ». Autrement dit, fermez vos gueules puis laissez-nous faire.
Ben oui, puis il va mettre des plumes partout. Hein?
Voilà.
C'est ça. Ça, c'est un bon article d'Espace Autochtone sur l'affaire des plumes, si les gens veulent aller voir. Merci Marie-Ève. Très complet comme rapport.
Choquée,
Ben oui, puis t'étais dedans, là. Ouais. On aime ça, là. Hey, jeudi, début de soirée, ça fait du bien.
J'aime ça voir les uppercuts à Yann Lafrenière.
Ouais, ouais, ouais. C'est ça, les jabs. Donc, on va aller en musique pour digérer tout ça. On va y aller avec le groupe Frankie and the Witch Fingers, la pièce Futurobic, de l'album Data Doom, sorti tout récemment, septembre 2023. C'est un quatuor installé à Los Angeles depuis 2014. Qui font un genre de rock'n'roll punk. On les a vus, Marie-Ève et moi, à la Sala Rossa la semaine passée dans le cadre de Pop Montréal. C'est un groupe énergique en show, mais c'est un peu répétitif. Hein?
Ouais, mais c'est sympathique.
Mais sur album, c'est bon, donc on y va avec Frankie and the Witch Fingers. Frankie and the Witch Fingers, la pièce Futurephobic. Je vous parle un peu de... Bon, on en a parlé un peu quand même aujourd'hui de l'Union européenne, mais quelques chiffres plus précis. Du 1er janvier au 30 juin, quelques 519 000 demandes d'asile ont été déposées dans les pays de l'UE, en Norvège et en Suisse aussi, soit une hausse de 28 % par rapport au premier trimestre, donc de 6 mois de 2022. Et d'après les tendances actuelles, les demandes pourraient excéder 1 million d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est les demandes déposées. C'est pas le nombre de personnes nécessairement qui se promènent. La principale nationalité des demandeurs d'asile sont encore une fois les Syriens. Vient ensuite les Afghans, les Vénézuéliens, les Turcs et les Colombiens. Ces cinq nationalités comptent pour 44 % des requêtes d'asile au sein de l'UE. Le taux de protection accordé en première instance dans l'Union est resté à peu près la même chose qu'en 2022, soit 41 % de réponses favorables. La première partie de l'année a également été marquée par une augmentation notable des demandes d'asile provenant des ressortissants ivoiriens et guinéens, surtout en France et en Italie. L'Allemagne reste le pays qui a reçu le plus de dossiers avec 30 % du total, soit près de 2 fois plus que l'Espagne à 17 % et la France à 16 %. L'Espagne reçoit le plus de dossiers provenant de ressortissants vénézuéliens et colombiens, donc qui viennent directement. Ils viennent pas par les bateaux. Plus de 80 % des demandes d'asile viennent de l'Amérique latine pour l'Espagne. Les Vénézuéliens sont par ailleurs exemptés de visa vers l'Espagne actuellement et obtiennent quasi systématiquement la protection. Sinon, la justice européenne a rejeté le 6 septembre la demande d'indemnisation introduite contre Frontex par une famille de Syriens. Les plaignants accusent l'Agence européenne de surveillance des frontières de les avoir refoulés illégalement de Grèce vers la Turquie en 2016. La justice ne leur a finalement pas donné raison et estime que Frontex n'est pas responsable de leur préjudice. C'est la première fois que la justice européenne se prononce sur une telle demande, alors que les pratiques de refoulement illégaux aux frontières extérieures de l'UE sont régulièrement dénoncées par les organisations et rapportées dans les médias. Donc, cette famille, ils ont été renvoyés vers la Turquie dans un vol organisé conjointement par la Grèce et Frontex, alors que leur demande d'asile n'avait pas encore été traitée. Ils réclamaient plus de 150 000 euros pour préjudice matériel et moraux. Dans cette décision, le tribunal de l'UE pointe du doigt la Grèce et insiste sur le fait que les États membres sont seuls compétents pour apprécier le bien fondé des décisions de retour et examiner les demandes de protection. En ce qui concerne les opérations de retour, Frontex a seulement pour mission d'apporter un soutien technique et opérationnel. Bon, ouais. On joue là-dessus.
C'est pas faux non plus.
Mais ils prennent leurs propres initiatives quand même des fois. La responsabilité de la Grèce dans cette affaire a par ailleurs été engagée devant la Cour européenne des droits de l'homme et a donné lieu à un règlement à l'amiable avec la même famille. Sinon, un dernier cas. Trois mois après l'un des pires naufrages en Méditerranée, une plainte a été déposée le 13 septembre par des survivants contre l'État grec. Le 14 juin, un chalutier transportant environ 700 personnes a coulé en Méditerranée au large des côtes grecques. 104 migrants ont été secourus, 80 corps ont été repêchés, mais des centaines d'autres sont toujours portés disparus. Soutenus par 6 associations, les rescapés dénoncent une série de violations perpétrées par les autorités grecques. Les plaignants exigent une enquête immédiate, approfondie et fiable, ainsi que l'attribution d'une responsabilité pénale pour les actes et omissions des autorités grecques. Après le terrible drame, plusieurs organisations et institutions internationales avaient réclamé une investigation sérieuse sur les circonstances du naufrage. Le gouvernement grec s'était alors engagé à mener une enquête approfondie, mais 3 mois plus tard, aucun des survivants n'a été appelé à témoigner ou à fournir des preuves dans le cadre d'une quelconque enquête. Athènes a rapidement été accusé d'être à l'origine de l'accident. Les rescapés ont affirmé que les gardes-côtes ont fait chavirer le chalutier en tentant de le remorquer en dehors des eaux grecques. Une enquête de la BBC démontrait par ailleurs que le bateau bondé était à l'arrêt et nécessitait une aide urgente, contrairement à la version donnée par les gardes-côtes grecs, qui disait que les exilés faisaient route vers l'Italie à une vitesse régulière et que le bateau fonctionnait, ce qui était un mensonge. Donc, les autorités grecques continuent de soutenir ces gardes-côtes. Les agents travaillent 24 heures sur 24 avec efficacité, un sens élevé des responsabilités, du professionnalisme et un respect absolu de la vie humaine et des droits de l'homme, a déclaré le ministère grec. Donc, voilà pour cette situation actuelle. Donc, Marie-Ève, on reste en Méditerranée?
Ben oui. Puis on va encore parler de l'Union européenne aussi quand même un peu.
Je sais bien que
les arrivées de migrants, là, sans précédent, de milliers de personnes sur l'île italienne de Lampedusa ont largement été couvertes par les grands médias. Puis là, craignez rien, je vous épargne la litanie de chiffres et de statistiques. Mais je veux quand même revenir sur les réactions de certains pays européens et de l'Union européenne elle-même, tu sais, depuis les événements. Je commence par la première concernée, l'Italie, qui a sans surprise répondu en durcissant le ton face aux migrants irréguliers. La dernière mesure en date est un décret adopté le 21 septembre qui prévoit que les migrants irréguliers et ceux qui proviennent d'un pays dit « sûr » vont devoir verser une caution de 5 000 euros en attendant la décision concernant leur demande d'asile, et donc bien souvent en attendant leur potentielle expulsion, sans quoi ils seront renvoyés dans un centre de rétention pendant l'examen de leur dossier. Concrètement, ce que ça fait, ben, l'État italien refile la facture pour couvrir les frais de logement et de subsistance pendant un mois, ainsi que le coût de rapatriement en cas de rejet de leur demande.
Ah ben ouais,
les dénonciations se sont pas fait attendre. Hein. On parle de rançon, trafic d'êtres humains institutionnels, pot de vin discriminatoire. Cette nouvelle mesure-là semble toutefois pas passer le test des tribunaux, parce que avant hier, il y a une juge de Catane en Sicile qui a libéré un migrant tunisien après avoir jugé le décret institutionnel.
Inconstitutionnel?
Inconstitutionnel, oui. Excusez. La juge estime qu'il ne permet pas aux demandeurs d'asile venant de pays sûrs d'être évalués sur une base individuelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tous les mettre dans le même panier. Là,
ouais.
Et reproche au décret de ne pas permettre non plus aux tierces parties, comme les associations de migrants, de payer la caution pour les exilés. Le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni a aussi créé un centre de rapatriement accéléré à Pozzallo, en Sicile, pour accueillir les migrants en provenance de Tunisie et d'Égypte, pays qui ont conclu des accords là, avec l'Italie pour faciliter les rapatriements. L'Italie considère la Tunisie, comme un pays sûr, ce qui donne pas droit à une protection internationale.
On connaît la chanson. Ouais.
D'autres centres comme celui-là vont être créés, là, sous peu, ça a été annoncé, également dans chacune des 20 régions du pays. Le gouvernement a aussi augmenté à 18 mois la durée maximale de rétention des demandeurs refusés, contre 40 jours renouvelables actuellement, là, pour à un maximum de 138 jours cumulatifs. L'objectif, c'est ici d'éviter que les autorités italiennes soient légalement contraintes de relâcher des migrants frappés d'une décision de reconduite à la frontière au cas où la procédure d'expulsion n'est pas aboutie dans les temps impartis.
Ben oui.
Je cite Giorgia Meloni.
Oh yeah.
Cela signifie, et j'envoie ce message très clair à toute l'Afrique, que si vous vous en remettez à des trafiquants pour violer la législation italienne, quand vous arrivez en Italie, vous devez savoir que vous serez arrêté et ensuite rapatrié.
Bon, c'est...
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et Giorgia Meloni, en se tenant la main, ont appelé les partenaires européens de l'Italie à aider à gérer les afflux migratoires, évidemment, en provenance de l'Afrique du Nord, mais aussi à accueillir une partie des migrants qui franchissent la Méditerranée. Je vais revenir tantôt là sur brièvement sur le plan de l'UE pour aider l'Italie, mais je voudrais m'attarder un peu sur les réponses à cet appel-là à la solidarité.
En Europe, oui.
Oui. Alors, en France, Emmanuel Macron a d'abord défendu un devoir de solidarité européenne avec l'Italie, ce qui est plutôt hypocrite puisque, dans le même temps, il a décidé de faire de l'immigration un thème majeur de sa rentrée politique en évoquant ces dernières semaines un possible référendum sur cette question-là.
Ah oui, j'avais pas
dit ça. Ouais, ouais. Bon, on sait pas trop en quoi consisterait, en tout cas...
Cette initiative.
Cette initiative, mais bon. Ensuite, le sinistre de l'intérieur, Gérald Darmanin, a de son côté immédiatement annoncé que la France n'accueillerait aucun des migrants arrivés à Lampedusa.
Il est vite, hein,
je le cite, la France veut une position de fermeté. Ce n'est pas en accueillant plus de personnes que l'on va tarir un flux qui, évidemment, touche nos capacités d'intégration. Darmanin en a rajouté pas plus tard qu'aujourd'hui sur les ondes de Radio RMC en accusant Giorgia Meloni d'être incapable de régler les problèmes migratoires. Je la cite, « Meloni, c'est comme Marine Le Pen. Elle se fait élire sur « Vous allez voir ce que vous allez voir! » Et puis, ce qu'on voit, c'est que l'immigration ne s'arrête pas et que ça s'amplifie.
Ben oui, baguette magique.
C'est l'imitation de qui, là? De Darmanin ou de...
Ben, c'est de Darmanin qui imite Meloni.
OK, c'est parfait. Merci.
Du côté de l'Allemagne, ben c'est la confusion la plus totale. Berlin avait d'abord annoncé suspendre l'accueil de demandeurs d'asile en provenance d'Italie dans le cadre du mécanisme de solidarité volontaire entre les pays européens. C'est que Berlin reproche à l'Italie de pas remplir ses termes du contrat, à savoir de reprendre ses immigrants enregistrés en Italie, mais qui se trouvent aujourd'hui en Allemagne, comme le prévoient les accords de Dublin. Deux ou trois jours plus tard, la ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Fraser, a déclaré que l'Allemagne remplirait ses obligations humanitaires pour ensuite maintenir sa position sur la suspension de l'accueil de migrants venus d'Italie. Bref, il y a des pourparlers entre les deux pays, mais là, on est un peu perdu. Non,
ouais.
Même au sein même du gouvernement, le monde capote un peu, ils ne savent plus trop ce qui se passe. Bref, ensuite, à la fin du mois, il y a les pays méditerranéens de l'Union européenne qui se sont réunis à Malte. Ils ont réitéré la nécessité d'un accroissement des efforts de l'Union européenne auprès des pays d'origine ou de transit des migrants. Puis ça fait le lien avec un peu ce que tu parlais tantôt, Mathieu, à propos de Chypre.
Oui.
C'est que là, les dirigeants du MED9 qui réunissent... le MED9, ça réunit la Croatie, Chypre, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, Malte, le Portugal et la Slovénie. En fait, ce qu'ils veulent, c'est plus de partenariats, justement, sur le modèle conclu avec la Tunisie en juillet. Là, Giorgia Meloni est venue un petit peu compliquer là, cette rencontre-là parce qu'elle est venue demander que les ONG qui secourent les migrants méditerranéens les fassent débarquer dans les pays dont leur bateau bat de pavillon.
Oui, j'ai vu ça.
C'est comme, bon. Puis je vais terminer là, très rapidement avec le fameux plan là, de l'Union européenne. Il est en 10 points, mais il peut se résumer en 6 axes. Là. Renforcer la surveillance des frontières, aux surprises, principalement par l'intermédiaire de Frontex. Oh, surprise encore.
Surprise, vive Frontex.
Renforcer le partenariat avec la Tunisie et la Libye. Fait qu'on reparle de la Libye. Améliorer le soutien à l'Italie. Renforcer les mécanismes de répartition européenne. Augmenter les retours dans les principaux pays d'origine. Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso. Et prévenir les départs et lutter contre les passeurs.
Ben, je pense que ça boucle la boucle sur notre sujet. Entre autres, méditerranéen aujourd'hui. On a beaucoup parlé de la région de la Méditerranée.
Ben oui, mais là, j'aurais pu vous parler. En tout cas, il y a eu plein de fake news. Il y a eu des gens qui en appellent à dire, ben là, on peut-tu comme parler des...
Ben oui, des gens.
Des gens, puis parler de pourquoi les gens quittent, puis en tout cas.
Ben oui.
Bref.
On en
parle souvent. Anyway.
Merci, Marie-Ève. À l'agenda aujourd'hui, je vais vous parler surtout de livres. Donc, un livre qui s'appelle « Frontières et domination, migration, capitalisme et nationalisme » de Arsha Walia, publié chez Lux Éditeur. Je vous lis un petit extrait de la présentation. « Les médias sont saturés d'images déshumanisantes que le discours dominant associe à une prétendue crise migratoire. Or, cette crise n'est que le résultat inévitable de la colonisation, la mondialisation capitaliste et des dérèglements climatiques. » L'imputer à celles et ceux qui font les frais de l'exploitation et de l'extractivisme est une façon d'exonérer les vrais responsables et permet de justifier le renforcement militaire des frontières, de diviser la classe ouvrière internationale, de criminaliser les migrants et de consolider la domination de la classe dirigeante. Donc, c'est un peu notre réponse à tous les chefs d'État en Méditerranée et en Europe.
Exact.
En étudiant les cas de différents pays d'Amérique, d'Europe, d'Asie, d'Océanie, l'autrice dénonce les politiques migratoires et appelle à l'action. Elle donne aussi à lire les témoignages de personnes migrantes pour offrir cette synthèse des combats menés partout dans le monde pour l'abolition des frontières. On rappelle qu'elle avait publié « Démanteler les frontières » en 2015 contre l'impérialisme et le colonialisme. Donc. Et un autre livre, « Les déclinistes » chez Éco-Société. Le sous-titre, c'est « Le grand remplacement, autopsie d'un délire ». Dans son nouveau livre, Alain Roy décortique le discours d'extrême droite des idéologues qui annoncent le déclin de l'Occident, bien en vue dans les grands médias. Pivot en a fait une critique assez intéressante. J'en lis un extrait. Le livre fait une critique acide du déclinisme, une théorie fumeuse selon laquelle la France subirait un déclin catastrophique à cause d'une prétendue invasion islamiste. Cette idée a le vent dans les voiles et pourtant elle repose sur des chimères. Mathieu Bob Côté fait partie de la chorale xénophobe dénoncée dans ce livre, aux côtés de Renaud Camus, Alain Finkielkraut, Éric Zemmour, Michel Houellebecq et Michel Onfray.
Finkielkraut. Ouais. Je l'appelle tout à fait Finkielkraut.
Bon.
Je pense que je vais l'appeler comme ça dorénavant.
Oui, non, c'est ça. Je vais garder d'autres livres pour une autre fois, juste finir en vous parlant du Revolution Fest qui a lieu en fin de semaine à Montréal après 3 ans d'absence. C'est une 8e édition, une fin de semaine de concerts et d'ateliers et de discussions sous le cycle de l'anticapitalisme révolutionnaire, de l'antifascisme autonome et du féminisme radical, une coproduction du Réalité et RH Montréal. Ça se passe à partir de demain, 6 octobre, au sujet du vieux avec une conférence sur les luttes populaires en Abitibi. Le samedi 7 octobre, un concert au Fouf avec entre autres Guernica et Rancœur de France. Et le dimanche 8 octobre, au Saint-Taverne, projection du film Squat et discussion sur les enjeux de logement. Donc, allez voir ça, Revolution Fest, de vendredi à dimanche à Montréal. Donc, des concerts et du contenu, si ça vous tente, de vous amuser intelligemment. Donc, voilà, Simon. ben finalement, j'ai deux secondes pour vous dire qu'à l'UQAM, hein, faut parler de ce qui se passe à l'UQAM un peu, il y a du 5 au 20 octobre, donc ça a commencé aujourd'hui, les journées de l'éducation relative à l'environnement organisées par le Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, le CENTRER. Donc, séminaire, table ronde, conférence va avoir lieu dans les prochains jours, prochaines semaines. Ça a lieu à la Bibliothèque des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, pavillon W. Et le 12 octobre, table ronde, éducation, environnement et territoire, perspectives autochtones et décolonisation des savoirs. Et le 19 octobre, conférence géopolitique des transitions et des réexistences, perspectives écoféministes du pacte écosocial et interculturel du Sud. Donc, on est quand même dans le contenu assez recherché, on peut dire. Donc, ça vous tente de trouver ça. C'est donc les journées de l'éducation relative à l'environnement. Ça se passe à l'UQAM dans les prochaines semaines. Donc, on va se quitter tranquillement pour cette émission du 5 octobre 2023. Merci beaucoup à Marie-Ève pour ton contenu.
Merci, je suis sonnée de moi-même. Là.
Oui, tu en avais du stock, hein?
Oui, oui.
C'est très intéressant. On va réécouter ça en balado. Simon, merci pour ton contenu, pour la mise en onde.
Ça fait plaisir. Moi, je vois encore Yann Lafrenière recevoir des taloches mentalement. Mais...
oh, oui, mais c'est une belle image pour la soirée.
De la part du...
De la famille de Joyce et Chacouin, des prénoms.
Non, mais du Collège des médecins.
Du Collège des médecins, surtout. Et de l'Ordre des infirmières, hein, tant qu'à faire. Donc, on va se retrouver donc dans deux semaines, le 19 octobre, 18h30, sur les ondes de choc.ca. Donc, vous pouvez nous écouter sur les ondes de Radio Victoria aussi, deux fois par semaine, les mercredis et dimanches. Et pour nous rejoindre, ben, c'est notre page sur le site de Choc ou notre site apatridesanonymes.info. Notre courriel est apatridesanonymes@resist.ca. Et notre page Facebook, ben, je mets des trucs militants, des trucs européens, mais vous savez qu'il y a plein de trucs qu'on peut plus mettre, fait qu'on la mentionne un petit peu moins, mais allez-y quand même, ça vous tente, Apatrides Anonymes. On va se laisser avec un quintet jazz prog qui vocal aussi, qui chante en français, un groupe de Québec. L'album s'appelle, le groupe s'appelle Eliov, la pièce s'appelle 11e ciel, l'album est éponyme, il est sorti en 2022. Et ils font un concert le 11 octobre à la Casa del Popolo, encore une fois à Montréal, dans le cadre d'une soirée prog avec les groupes Pourpre et Trans-Québec, des nouveaux groupes aussi de musique prog. Donc, Eliov, qui... Oui, ça chante en français, Maria, tu vas voir.
Ben, la pièce que j'ai entendue, moi, elle faisait plus des...
Des vocalises.
Oui, c'est ça.
Vrai. Mais c'est une femme qui chante. Donc voilà, on se laisse avec Eliov. Merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup, Marie-Ève. Bonne soirée à tout le monde.
Bonne soirée. Merci, Mathieu.
Et à très bientôt.
Oui.
Elle était bonne, mon animation, hein?
Oui, okay. Ouais, ciao, ciao.